Je sais pas quand on va finir, mais on va commencer dans, dans les prochains messages. Ça sera, ça parle de l'Église, ça parle des richesses que l'on a en Jésus-Christ, puis aussi de la réponse de nos cœurs aux richesses de Dieu dans Éphésiens. Puis ça sera les études qu'on va continuer. Mais ce soir, on va terminer avec rencontrer Jésus encore, son dernier message après la crucifixion. Après la résurrection, en particulier, Jésus, celui qui nous envoie. Jésus, il comprenait bien, lui, qui, quand il est venu sur la terre, qu'il avait été envoyé par son Père. Le Père m'a envoyé. Je faisais la liste cette semaine, je regardais dans l'Évangile de Jean, à toutes les fois que Jésus avait dit ça, celui qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé. En tout cas, il savait ça, lui. Que le Père l'avait envoyé. Il savait vraiment qu'il avait été envoyé du Père. Vous connaissez, par exemple, Jean 3, 17. Jean 3, 16. Si on commence Jean 3, 16, on va voir Jean 3, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il soit sauvé. Le Père n'a pas envoyé son Fils. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Ah, la vie éternelle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus, il comprenait très bien qu'il avait été envoyé du Père pour accomplir la mission que le Père lui avait donnée. Et à son tour, quand lui va quitter la terre, il va appeler ses disciples et par la suite, il va les envoyer en son nom. Comme le Père m'a envoyé, il va dire, moi aussi maintenant, je vous envoie. Et ça, c'est ce que Jean chapitre 20, le verset 21 nous mentionne. Alors, puisque Christ est parti, quand on rencontre Jésus, aujourd'hui, Jésus veut faire de nous des disciples et des ambassadeurs, et il veut nous envoyer à notre tour. Nous faisons donc les fonctions, Paul dit, d'ambassadeurs pour Christ, comme si Christ supplier à travers nous, soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, si on est envoyé en mission, est-ce qu'on connaît bien les éléments de la mission? Nos soldats qu'on envoie en mission, j'espère qu'on sait qu'eux autres savent où ils vont, puis c'est quoi la mission, puis quand est-ce c'est quoi l'objectif final de la mission, puis s'ils vont tout seuls. C'est assez des choses de base à savoir hein, quand on part en mission. Et je vous demanderai la même chose. Jésus dit, je vous envoie. Est-ce qu'on connaît les modalités de la mission du Seigneur? Et j'aimerais qu'on regarde ensemble ces éléments-là ce soir. Mais d'abord, on va prier. Seigneur, encore une fois, merci. Parce que comme Jackie disait, t'es pas resté sur la croix. T'es monté au ciel. Et Seigneur, tu nous appelles, nous non plus, à pas rester attachés en quelque part. Mais Seigneur, à marcher pour toi, à être en mission pour toi. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et Seigneur Dieu, je veux te prier encore ce soir que tu nous aides à clarifier dans nos cœurs, dans nos pensées, les éléments de la mission que tu nous donnes, afin, Seigneur, qu'on soit trouvés fidèles. Alors Seigneur, dirige-nous encore une fois, juste dans l'étude de ta parole, ensemble, pour ta gloire, pour notre édification, pour l'avènement de ton règne. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, d'abord, ma feuille est remplie, puis la vôtre est vide. Hein? Alors, l'objectif, c'est qu'on remplisse ensemble les éléments. Jésus nous envoie. Regardez, Jean 20, 21, comme je vous l'ai mentionné, c'est son dernier message avant de partir. Ça fait partie de ses dernières apparitions parmi les disciples. Et Jean 20, 21 dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Première question, où est-ce que Jésus nous envoie? À votre avis, dans le monde. Il nous envoie dans le monde. À un moment donné, dans les 4e, 5e siècle, 6e siècle du christianisme, il y a eu des mouvements qui se sont multipliés par la suite, des mouvements de monastiques que l'on appelle, des moines, des monastères. Au départ, il y avait des gens là, qui voulaient que le péché ne le touche pas dessus, alors ils se retiraient complètement du monde. Ils se plaçaient dans des cages. Il y en avait un, à un moment donné, qui se montait là, sur un haut sommet, sur une cage, puis un vrai lion d'une cage, là, puis il restait là. Il voulait vivre la parfaite béatitude avec Dieu, loin du monde, loin du péché. Pensez-vous qu'il a pu faire ça, qu'il a pu se placer loin du péché? Il pouvait-tu s'éloigner? Hein? C'est ça, il devait en rester encore un petit peu dans son propre cœur. Les mouvements monastiques à travers les siècles ont manqué cette idée-là. Là. Je vous envoie où? Dans le monde. Pas pour faire comme le monde, par exemple. Pour être la lumière du monde. Pour être le sel de la terre. Tournez dans Jean chapitre 17. Encore une fois, sa prière sacerdotale à Jésus. Jean 17, les versets 15 à 19. Des beaux textes, je vais les lire. Jésus, il priait son Père. Puis il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Qu'est-ce que Jésus demande à son Père? Il dit, je les ai envoyés dans le monde. Puis alors, papa, père, qu'est-ce que je veux de toi quand je les envoie dans le monde? De les préserver du malin. Il dit qu'ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand Jésus dit à son père, ils ne sont pas du monde, je les envoie dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont mal élevés? Des fois, on dit ça déjà, ah, c'est pas du monde. Non. C'est ça que Jésus voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ils ne sont pas du monde? Ils ont été mis à part, leur origine et leur destinée, c'est pas le monde. Mais en transition, je les place dans le monde. Comme lui non plus, Jésus dit, moi je suis pas du monde non plus. J'ai une origine, puis j'ai une destinée qui est pas du monde. Hein, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et dans un sens, nous non plus, on est ses sujets, puis on n'est pas de ce monde. On appartient à un autre monde. Alors, mais il les place dans ce monde, dans le cosmos, et préserve-les. Comment est-ce qu'il va nous préserver dans le monde? Comment est-ce qu'on va pouvoir bien faire notre tâche dans le monde? Puisqu'il nous place, Seigneur, préserve-les du mal, puis il demande une autre prière. Sanctifie-les par ta vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sanctifier? Mets-les à part et consacrer. Les garder pour leur usage spécifique. Je les place dans le monde parce qu'ils ont une mission dans le monde. Ils ont un usage spécifique. Et même Jésus dit, moi aussi, je me sanctifie pour eux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit, moi aussi, je me sanctifie pour eux. Je te demande de les sanctifier par ta parole, puis moi aussi, je me sanctifie. Lui ici, il s'est consacré. Lui aussi, il s'est mis à part pour l'œuvre, pour la mission que le Père lui avait donnée. De la même manière que moi, je me suis sanctifié, j'ai été mis à part pour cette œuvre-là, fais la même chose pour eux. Je les place dans le monde. Je veux que tu les préserves, puis je veux que tu les sanctifies, que tu les utilises pour leur usage particulier. Alors, par conséquent, Dieu ne désire pas notre isolement du monde, mais il désire notre influence et notre engagement dans le monde. C'est tellement important. C'est trop facile pour les croyants de s'isoler du monde parce qu'on a moins de bosses dans ce temps-là. C'est... Mais Dieu dit non, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Et prenez courage, par exemple. J'ai vaincu le monde. Je vais me servir de toi de, pour être une influence, pour engager ma personne dans le monde. Jésus nous envoie où? Alors, c'est où le monde pour vous? À votre travail, à vos loisirs, dans nos familles. Il y a plein de places. Hein, c'est pas, j'allais dire en Afrique, on dit souvent ça en Afrique. c'est pas, aujourd'hui, l'Afrique est bien plus évangélisée qu'on le pense, là. Elle est souvent peut-être plus qu'au Québec, là. Le Québec, c'est vraiment l'Afrique d'il y a un siècle, là. Parce que, un demi de 1%, probablement que le Congo, il est plus avancé que ça, j'imagine, là. Mais c'est pas loin, le monde. C'est prêt. C'est les gens que l'on rencontre. Jésus nous envoie où dans le monde? Pas pour faire comme le monde, mais pour être la lumière du monde. Pardon? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le monde, il ne faut pas penser c'est loin, c'est être missionnaire. Non, c'est influencer et s'engager comme croyant, comme ambassadeur, là où Dieu nous a placés. Et alors il nous envoie où, c'est clair? Quelle est notre mission? Alors pourquoi Jésus nous envoie-t-il dans le monde? Quel est notre rôle dans le monde? Quelle est la mission qu'il nous donne? À l'aide, hein? Pour répandre la parole, qu'on soit la lumière, qu'on soit le sel, qu'on porte du fruit. C'est fun, ça c'est mon premier point. toutes les autres réponses étaient bonnes, là. Mais Jean 15, hein, je suis le cep, vous êtes les serments. Jean 15, 16. Il nous place dans le monde parce que c'est dans le monde qu'on va être le meilleur endroit de reproduire son caractère en demeurant en lui. Jésus dit, c'est bon que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais vous envoyer l'Esprit, et puis l'Esprit, il va travailler dans votre vie. Il va vous transformer. Tournez dans Jean 15, verset 16. Quelqu'un peut lire ce passage-là? OK. C'est quoi la notion de porter du fruit? Je vous ai établi afin que vous alliez, évidemment, dans le monde, que vous portiez du fruit. C'est quoi ce fruit-là? Oui, peut-être, entre autres. Et dans Jean chapitre 15, est-ce que c'était particulièrement la notion des conversions qui parlait de porter du fruit? Hein? Des bonnes œuvres, oui. Je suis pas convaincu, hein? Oui. C'est quoi le thème de Jean chapitre 15? Hein? Le cep et les sarments, une vigne, puis la vigne, ça produit du fruit. Puis dans Jean chapitre 15, c'est quoi le fruit dont il parle? Oui, l'amour. Il dit que lui est le cep et nous sommes les sarments, les branches. Et il nous a demandé de demeurer attachés, de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans son amour. Qu'est-ce que ça va avoir comme fruit, le fait de rester attaché au cep, à son amour, à sa parole? Bon, que la joie soit en nous, que notre joie soit parfaite, c'est très bien. Alors, c'est sûr que ça va venir vers la conversion à un moment donné des autres, ça va venir faire des bonnes œuvres. Mais fondamentalement, oui, puis le fruit digne de la repentance, ça touche qui, ça, en réalité? Oui. Et ça va porter du fruit, ça va avoir comme résultat glorifier Dieu. C'est très bien. Tu disais quoi, Danny? Ça veut dire nos vies à nous. Hein? Alors, ça a pris combien de grains de raisin pour... je ne suis pas très bon, c'est peut-être que c'est des branches, qui c'est peut-être pas des raisins qu'on fait pour pousser des vignes, là, je ne sais pas. Là. Mais j'imagine que ça doit prendre un grain de raisin pour faire un plant de vigne. Ça se peut-tu, ça? Puis si c'est bien attaché, puis c'est bien ancré dans le sol, ben un grain de raisin va en produire plusieurs. Le grain de raisin, le 7, c'est qui? Jésus. Puis il veut qu'on produise du fruit par milliers. Ce fruit-là, ça va être quoi? À mon avis, c'est fondamentalement, dans Jean chapitre 15, ça va être le caractère de Christ. Jésus, il est mort et chaque personne qui l'accepte maintenant puis qui reste attachée à Jésus, et le fruit est d'abord en lui, est d'abord le caractère de Christ. Alors, Dieu nous place dans le monde d'abord pour reproduire son caractère dans le monde. Évidemment, on avait dit le sel de la terre, la lumière du monde. Évidemment, en demeurant en lui, on va reproduire son caractère, qui il est. Et formidable, Jésus était seul et maintenant, il y a des milliers de personnes, millions de personnes qui reflètent Christ. Notre mission, à mon avis, c'est qu'on porte du fruit. Éphésiens, on va trouver ça aussi dans Éphésiens, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Alors, ça, c'est vraiment le fruit fondamental. Oui, après ça, ça va porter du fruit dans le sens que ça va amener des âmes à Christ, ça va influencer d'autres personnes. Mais dans Jean 15, je pense que le fruit fondamental, c'est reproduire son caractère dans des milliers de personnes. Vous avez déjà vu j'ai une photo dans mon bureau d'une vue satellite du monde la nuit. C'est long, mais c'est excitant de voir les endroits où il y a beaucoup de lumière, des endroits où il n'y en a pas. Mais en réalité, c'est ça que les chrétiens sont. Il y a 2000 ans, il y avait une grosse lumière en Israël sur la dans la photo de la planète. Mais là, maintenant, les chrétiens sont tous dans ces lumières-là, partout. C'est la mission de Christ d'abord. De reproduire son caractère en nous à travers le monde. Jean chapitre 20, un autre but de la mission, qui n'est pas juste reproduire son caractère dans nos vies. Juste pour dire, il nous a placé. C'est-tu utile qu'on soit dans le monde pour qu'il reproduise son caractère en nous? Si on n'avait pas à briller dans le monde, ça serait-tu plus facile de refléter son caractère? Si on n'avait pas personne avec qui avoir des différends, ça serait-tu plus facile de développer l'amour? Moi, ça va bien. J'aime mon voisin qui habite à Montréal. C'est celui qui habite deux portes de chez nous qui a le plus de difficultés. La patience, le caractère, ça se développerait-tu? On va-tu développer la patience au ciel? Il n'y aura plus de trouble. L'impression qu'on a bien de la misère à développer la patience. Alors, si on est dans un milieu, évidemment, pas toujours amical, et ça, c'est un milieu pour développer notre caractère, reproduire le caractère de Christ en nous. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Quelqu'un pourrait lire ça? Jean 20, 21 à 23. Un autre élément de la mission. Okay. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, puis je demande de recevoir, que vous allez recevoir l'Esprit, puis c'est quoi l'objectif après ça? D'annoncer le pardon. La mission que nous avons, c'est la proclamation. Et quel est le contenu de notre proclamation qui mentionne ici? La proclamation du péché, c'est, oui, ça, c'est dans un sens la partie négative, mais il y a quelque chose au sujet du péché. Du pardon des péchés. Dieu nous appelle à proclamer le pardon des péchés. Évidemment, à travers la rédemption qui est en Jésus. L'Esprit, à ce moment, pendant que Jésus était sur la terre, l'Esprit était avec eux et Dieu dit « Recevez-le, je pense, de façon plus particulière à ce moment-là pour qu'ils comprennent les Écritures. » Si on tournait dans Luc chapitre 24, il dit « Recevez l'Esprit, vous allez comprendre les Écritures. » Et c'était plus tard que le Saint-Esprit est venu en eux. Peut-être on peut tourner pour éclaircir là, Jean chapitre 14, verset 17. Juste avant, dans la chambre haute, Jean 14, 16, « Je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera... » en vous. Il y a une différence entre le Saint-Esprit qui était avec eux et le Saint-Esprit qui va être en eux. Quand est-ce les apôtres ont-ils reçu le Saint-Esprit en eux? Le jour de la Pentecôte. Et quand ils étaient avec Jésus, il y avait la présence de l'Esprit avec eux. Et quand Jésus dit « Recevez le Saint-Esprit », c'est un peu la même manière que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète était loin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu venait sur lui et il pouvait exercer le ministère que Dieu lui avait donné. Dans Luc chapitre 24, il nous parle de ce... Il aura, ça dit un autre verbe, il aura ouvert l'Esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Mais notre deuxième mission, la proclamation du pardon des péchés à travers la rédemption. Le thème du pardon des péchés doit être au centre de notre proclamation de l'Évangile. On a tendance à oublier ça à un moment donné, là. Jésus nous aime, Jésus veut nous sauver, et on a de la misère à dire « sauver, sauver de quoi, là? » Sauver, sauver des péchés. Alors Jésus, il offre le pardon des péchés, le pardon de mes péchés. Et être sauvé, c'est de faire cette transaction-là avec Christ, de demander pardon pour ses péchés. Le thème du pardon des péchés, oui? Oui, c'est ça, la bonne nouvelle n'a pas de poids si on n'a pas compris le fait qu'on est des pécheurs. Perdu à cause de nos péchés. Alors il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, est-ce que c'était dans l'autorité des disciples, des apôtres, de pardonner les péchés? Okay. Mais de ce qu'on vient de lire, là, ceux à qui vous pardonnerez les péchés vont être pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Est-ce qu'on a cette autorité-là de pardonner les péchés? Comment les disciples ont compris ces paroles-là? Tournez dans Luc 24. OK, je suis contente. Je suis content. Parce que souvent, c'est quoi cette affaire-là? Luc chapitre 24. C'est le même passage de façon parallèle. Luc 24, le verset 47. Quelqu'un peut lire? Oh oui, Naomi. Alors, dans Luc, quand Luc explique ce même passage-là, il dit, qu'est-ce qu'il dit au sujet du pardon des péchés? Il va être prêché au nom de Christ. Alors, je peux dire aux gens, tes péchés sont pardonnés lorsque tu vas croire au Seigneur Jésus. Si tu ne demandes pas à Jésus de venir pardonner tes péchés, de te donner de la vie éternelle, tu vas mourir dans tes péchés à toi. Tes péchés vont être retenus. Alors, on a l'autorité du message à proclamer au sujet du pardon des péchés. Et regardez qu'est-ce que les apôtres, eux, ont dit par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont compris de ça? Tournez dans Actes chapitre 10. Quelqu'un peut lire Actes 10, 43? Lève la main. Acte 10, 43, j'ai trois versets. Ça, oui, David. Un autre, acte 13, 38, Claude. Et un autre, acte 26, 17 et 18. Une autre personne. Oui, Serge, s'il te plaît. Alors, acte 10, 43. Alors, ce que les apôtres prêchaient, ils disaient que tous les prophètes avaient affirmé que le pardon des péchés, ça se trouvait comment? Tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. Alors, le pardon des péchés, encore une fois, était proclamé. Chapitre 13, verset 38. OK. Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Ils annonçaient le pardon des péchés. Le pardon des péchés était proclamé, il était annoncé. Et encore une fois, 26, 17 et 18. Alors, voilà la mission que Dieu avait donnée à Paul, de prêcher la bonne nouvelle afin qu'il reçoive par la foi le pardon des péchés. Pas par l'autorité d'un apôtre, pas plus par l'autorité de chacun de nous, mais qu'il reçoive par la foi le pardon des péchés. Notre mission alors est non seulement la reproduction du caractère de Christ dans ma vie, mais aussi la proclamation de l'Évangile, la proclamation du pardon des péchés. Et si on tournait dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, on verrait un autre élément de la mission. Vous connaissez bien ce passage-là. Quelqu'un peut lire les versets 19 et 20? Oui, Dani. Quelle est ici la mission que Dieu donne à ceux qui ont envoyé? Faire des disciples. Est-ce que c'est la même chose que annoncer le pardon des péchés? C'est plus, c'est ça. c'est beaucoup plus que ça. Faire des disciples. Puis quand tu auras fait un disciple, quand il y aura quelqu'un que tu as... Le troisième élément, le mot « faire », la formation... Dieu, notre mission, c'est la reproduction du caractère en nous, la proclamation du pardon des péchés, puis la formation de disciples. Fais des disciples, il mentionne. Et ces disciples-là, en allant faire des disciples, bien là, tu les identifies à la communauté chrétienne en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, ce n'est pas fini encore. Tu les baptises, puis après ça, tu les enseignes. Tu les enseignes pour qu'il y ait une grosse tête, qu'ils sachent tout. Qu'est-ce que ça dit? J'aime ça, qu'est-ce que ça dit en réalité. Enseignez-leur. Souvent, c'est ça que je pense. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais c'est pas ça que ça dit. Enseignez-leur à observer. Ça, c'est bien différent, ça. C'est pas juste à remplir leur connaissance, leur tête de connaissance, là, mais... Apprends-leur à marcher dans la vérité. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé, ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer l'enseignement. Quand on dit qu'on prêche l'Évangile, j'aime rappeler que quand l'Évangile, c'est pas juste la justification par la foi. Ça l'inclut aussi la sanctification progressive. J'enseigne à Sherbrooke, là, cinq fins de semaine, cinq samedis d'ici Noël. Puis la dernière fois, bon, on s'est rendu au verset 17 du chapitre 1, on a fait l'introduction, puis Romains 1 à 17. Mais ça dit en Romains 1, 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, car en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qui est écrit, le juste, par la foi, vivra par la foi. Alors, il n'y a pas juste celui qui est justifié par la foi, mais lui aussi, il va continuer après ça, il va vivre par la foi parce que le salut, l'Évangile, Dieu manifeste sa justice par la foi, mais après ça, pour la foi, pour la marche par la foi. Il veut manifester sa justice à travers notre vie, à travers le chrétien qui marche par la foi. Et tournez dans Romains 1, 5. Et Paul commence son épître et termine son épître avec cette même notion-là de l'Évangile qui est plus large que être déclaré juste par la foi. Mais ça l'inclut aussi la formation, la marche. Romains 1, 5, il dit que par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. Il veut amener tous les païens à quoi? À l'obéissance que produit la foi. Regardez chapitre, là j'ai l'obéissance de la foi, il y a différentes manières de le voir, mais de la manière dont je le comprends, c'est l'obéissance que produit la foi. Regardez Romains chapitre 16, verset 26. Il termine maintenant l'avant-dernier verset de son épître. Il dit au verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. » Et la prédication de Jésus-Christ. Et là, on voit au verset 26, « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. » Que la foi les amène à une obéissance. Jésus nous envoie dans le monde pour la reproduction de son caractère en nous, pour la proclamation du pardon des péchés et aussi pour la formation de disciples qui vont se multiplier eux aussi, qui vont multiplier la présence de Christ sur la terre. Il faut apprendre à observer ce que Dieu nous a demandé. Oui? Oui? Pardonner les péchés? OK. Jean chapitre 20. Alors, il dit, je vous envoie ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Alors, de quelle manière est-ce que les disciples vont avoir l'autorité de pardonner les péchés? Est-ce qu'ils vont accueillir la confession auriculaire des gens, puis ils vont dire, parce que tu as confessé ton péché à moi, je te pardonne tes péchés. Comme on sait bien, la tradition catholique, elle a pris ce verset-là, puis elle a dit, c'est ça, ça veut dire. Les disciples avaient l'autorité d'entendre la confession des péchés, puis de dire, comme moi j'ai entendu, par l'autorité qui m'a été donnée, je te pardonne tes péchés. Sauf que j'ai regardé le main, puis il n'y avait pas de trou dedans. Là, je savais. Puis... Oui. 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 Mais je dirais, il y aurait un parallèle. Mais moi, OK. Alors, je pense que dans Jean chapitre 20, il est plus en train de mentionner la proclamation de l'Évangile. Quand je proclame l'Évangile, je proclame aux gens la possibilité d'avoir leur péché pardonné. Et évidemment, je peux dire à Yves-René, j'ai entendu ton témoignage et sur la base de ton témoignage, je peux te dire que tes péchés sont pardonnés. Je comprends ça. Mais faudrait pas que ivre-né sorte d'ici puis dise « Moi, j'ai mes péchés pardonnés. René l'a dit. » Et savez-vous quoi? Ça arrive souvent, ça. Pas que René l'a dit, mais qu'on dise à quelqu'un qui nous a raconté un événement, t'as dit « T'es sauvé, tous tes péchés sont pardonnés. » Puis les gens quittent, puis ont l'impression que sur la base de ce qu'un chrétien a dit, ses péchés sont pardonnés. Faut faire attention à ça. Le pardon. C'est ça. Exactement. Sur la base de ce que Jésus a fait, je peux dire avec certitude à une personne à qui je partage l'Évangile, si tu te... Je faisais ça vendredi soir, j'ai fait encore le plan du salut avec une personne, et je lui ai dit, si tu te repens de tes péchés et tu places ta confiance en Jésus, tes péchés sont pardonnés. J'ai l'autorité de dire ça. Pas moi, je te pardonne, mais sur la base de ce que Jésus a fait. Alors, je m'en vais. Comme dit Luc 24, le pardon des péchés sera proclamé en son nom. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'on partage aux gens. Tes péchés sont pardonnés quand tu places ta foi en Jésus. Et le chrétien, il y a aussi la notion négative aussi. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tes péchés ne sont pas pardonnés. La colère de Dieu demeure sur toi, tu vas rester collé avec tes péchés. Jésus, il est bon, il est amour, mais il est saint et juste. Ben moi, on a pleine autorité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un message distinctif, exclusif. Le pardon des péchés se trouve en Jésus seul. Et dans Jean 20, quand Jésus dit, je vous envoie proclamer le pardon des péchés. Et ça, c'est l'essence du christianisme. Quand je prêche l'Évangile, quand on prêche le christianisme, on ne prêche pas juste aller au ciel. Ça, c'est la deuxième partie. On prêche le pardon des péchés. Et comme on a vu après ça dans les Actes, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Quand Dieu a appelé Paul, il l'a appelé pour qu'il proclame le pardon des péchés. Et dans ce sens, on a vraiment l'autorité de dire tes péchés sont pardonnés quand tu places ta foi en Jésus-Christ ou tes péchés sont collés sur toi si tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Alors, on a un pouvoir de condamnation dans un sens. Mais je veux dire, on n'ajoute rien, ils sont déjà condamnés, là. Oui. Qui dit? OK. Ouais, ben je serais beaucoup plus moins ouvert à dire ça, c'est égal à la même chose. Parce que Jésus, c'est son dernier message, il dit « Va, je vous envoie dans le monde pour proclamer le pardon des péchés. » Maintenant, dans la vie chrétienne, on a deux types de pardon. On a un pardon judiciaire. Mes péchés sont pardonnés parce que Christ a payé à la croix pour mes péchés. Ça, c'est mon pardon. Je l'ai reçu, ce pardon-là, pour tous mes péchés. Et j'ai un pardon paternel. Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pas renvoie Jésus pour pardonner mes péchés, mais il est déjà mon Père. C'est notre Père qui est aux cieux, pardonne mes péchés maintenant. Alors ça, c'est le pardon paternel. Mes enfants qui font un mauvais coup, ils sont encore mes enfants, mais c'est une bonne affaire qu'ils disent « Papa, je te demande pardon parce que ça pourrait aller mal. » Le bon berger va les reprendre. Alors, Et ce pardon-là, il est aussi dans la communauté chrétienne. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le. Si tu sais que ton frère a un problème contre toi, va le voir puis règle le problème. Là, il y a la notion du pardon paternel, du pardon fraternel. Mais je ne placerai pas Jean 20, le pardon dont parle Jean 20, comme voulant dire le pardon fraternel ou paternel. Je l'associerai davantage au pardon judiciaire, dans un sens, aller par toute la terre, prêcher le pardon des péchés à travers la rédemption de Jésus. Ouais, c'est sûr que dans les Écritures, il y a d'autres passages sur le pardon, là. Des fois, c'est le mot pardon qui est aux deux endroits, puis qu'on fait un passage parallèle, là. Ça ne veut pas toujours dire que c'est la même chose. C'est des passages parallèles. Mais j'aurais de la difficulté à associer le pardon fraternel ou paternel à Jean chapitre 20. Je pense que c'est vraiment... Ce que vous lirez sur la terre... c'est intéressant cette affaire-là, mais à mon avis, encore une fois, c'est un autre sujet. Dans le sens que dans Matthieu 18, c'est la discipline de la communauté chrétienne, de l'Église. Quand un frère est dans la difficulté, je le reprends à deux. Après ça, je le dis à l'Église. Et s'il n'écoute pas l'Église, je le considère comme un païen, un publicain. Et là, Jésus, il affirme l'autorité de la discipline de l'Église. Il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est dans le domaine de la discipline. Puis là, il dit, ce que vous lirez sur la terre, et si je traduisais le participe moyen qui est là, ce que vous lirez sur la terre aura été comme étant lié dans le ciel. C'est-à-dire, Dieu l'a déjà lié dans le ciel et vous affirmez ce que Dieu a déjà fait. Et ce que vous déliez sur la terre, ça sera comme ayant déjà été délié par le Père. Vous faites juste confirmer qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il a donné à l'Église une autorité disciplinaire. Ça, c'est Matthieu 18. Alors, je pense que ce n'est pas nécessairement le thème de Jean chapitre 20, « Les péchés à qui vous pardonnerez ». 16, 18, c'est ça. Non, c'est l'Évangile. OK, toi, dans ce que tu liras sur la terre sera lié dans Matthieu 16, 18. Mais c'est ça, l'autorité que nous avons est dans la proclamation du pardon. Et c'est ce que Pierre a fait d'abord aux Juifs, ensuite aux Samaritains, ensuite à tout le monde. Bon, merveilleux. Ça va, ça te clarifie un peu mieux? Oui, Claude? Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et voici l'autorité que vous allez avoir. Par la proclamation de l'Évangile, vous pouvez dire aux gens, avec l'autorité divine, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont retenus. Alors, il y a un grand pouvoir dans ce que nous sommes. Oui. Oui, Danny? Oui. Mais la notion de Claude, c'est qu'il y a quand même une autorité transférée par Jésus à ses disciples, à chacun d'entre nous, aux apôtres comme aux disciples. Et cette autorité-là, c'est de proclamer le pardon des péchés et de proclamer que les péchés restent collés à ceux qui se convertissent pas. C'est une responsabilité énorme. Oui, c'est ça. Et ça n'implique pas une notion de confessionnal du tout, là. Ça n'a rien à faire avec une confession auriculaire où j'entends les péchés de quelqu'un puis que j'ai l'autorité de pardonner. Ça s'est jamais... Dans les Écritures, on n'a pas cette notion-là. La religion a utilisé un verset comme ça pour amener la confession auriculaire. Notre mission, Jésus nous envoie dans le monde pour la reproduction, la proclamation, la formation, et on a des partenaires. Dites-moi deux partenaires qui sont là, dans Jean chapitre 14, verset 26. Oui? le Consolateur, l'Esprit Saint. On n'est pas seul dans cette mission-là. On est équipé par du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous équipe, qui nous conduit, qui nous sanctifie, qui nous fortifie dans le service de Dieu. Oui. Amen. Dans 2 heures. Amen. Amen. C'est un verset d'appoint où le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour te régénérer, t'équiper. Et il est fidèle. Il est encore là. Hein? Il t'a conseillé. Oui. Et il est encore là. Merveilleux. Jean chapitre 17, versets 21 et 23. Il y en a d'autres aussi. D'autres partenaires avec qui nous sommes en mission. Et ce sont les autres croyants avec lesquels on forme une communauté. Une communauté qui est marquée par l'unité, par l'amour. Une communauté qui a un grand pouvoir de persuasion sur les gens autour de nous. Jean 13, 35, ça dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et dans Jean 17, les versets 21 à 23, il prie pour eux, pour nous, ceux qui allaient croire à la parole plus tard, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité-là, cet amour, qu'elle soit en nous. Et ça aura un pouvoir de persuasion. On a comme partenaires les autres croyants. Et ça va durer jusqu'à quand, ça, notre mission? Y a-t-il un terme? Février 2011, notre armée, là, en Afghanistan. Nous, on a-t-il un terme comme ça, déterminé? Jusqu'à ce que notre place soit prête, je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous chercher. Ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Regardez qu'est-ce que Jésus prie à la fin de sa prière sacerdotale, Jean 17, 24. Ça va être la fin de la mission. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Seigneur, je veux, Père, il dit, je veux que là où je suis, eux autres aussi y soient. Je m'en vais vous préparer une place, puis après ça, je m'en vais vous amener là. Ça va être la fin de la mission. On va être avec Jésus, dans sa gloire, pour l'éternité. Et rencontrer Jésus, c'est pas juste la vérité, la lumière, l'agneau de Dieu, mais finalement, c'est rencontrer celui qui nous envoie pour le refléter dans le monde jusqu'à ce qu'il revienne. Paul dit, quand il considère sa mission, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que Dieu nous trouve fidèles à être dans le monde, à partager la mission de reproduire son caractère en nous, de proclamer le pardon des péchés, de former des disciples. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, autant que par l'aide de la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'il revienne. Oh Seigneur, merci encore. Tu as quitté, mais la Bible nous dit que tu es aussi en nous par ton Esprit. Seigneur, rends-nous fidèles. Merci de la mission que tu nous as donnée. Merci de l'autorité que tu nous donnes à travers cette mission-là. Et Seigneur, on veut te prier que nous puissions refléter ta personne. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.